Alors, bonjour, bon matin tout le monde. Je suis contente d'être avec vous pour la suite de cette série En chemin vers la résurrection. Donc, évidemment, avec l'approche de Pâques. Mais avant de parler de résurrection, on doit parler de la vie. Hein? Si on ne peut pas y avoir de résurrection, s'il n'y a pas eu de vie auparavant. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Et c'est un verset qu'on va regarder ensemble ce matin. Il dit aussi qu'il est la résurrection et la vie. Et aussi qu'il avait pour nous une vie abondante. Ça, on va voir ça ensemble ce matin. Le titre de mon message, c'est justement La vie en abondance. C'est la promesse de Jésus pour chacun d'entre nous. Sache que Jésus n'a pas pour toi une vie misérable, mais une vie abondante. Une vie avec des voitures de luxe, des beaux vêtements, de l'argent à profusion. Voilà ce qu'est la vie abondante selon la Bible. Amen. Non, OK, personne me congédie pour hérésie, évangile de prospérité. Certains, ça, il y a eu un petit malaise, bien entendu. Jésus veut combler profondément nos besoins, mais pas souvent pas de la façon qu'on voudrait nécessairement ou qu'on penserait. Parfois, on pense qu'on a besoin d'une belle maison, de quelque chose de ci, de ça. Mais Jésus sait exactement de quoi nous avons besoin et il veut nous le donner. Il a le meilleur pour chacun d'entre nous en réserve. Jésus veut nous offrir une vie de qualité en comblant nos besoins, en nous remplissant du fruit de son esprit vivifiant, l'amour, la joie, on les connaît, mais écoutez-les pour de vrai, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Et tout ça, c'est bien plus précieux que les richesses qu'on peut trouver dans ce monde. Et Jésus veut nous les donner. Il nous les offre. Il nous les offre. Il veut nous les donner. Jésus a fait cette déclaration dans Jean 10, 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Et c'est les deux points que je veux voir avec vous tout simplement ce matin. Je veux qu'on regarde à ce que Jésus vient nous donner la vie. Il vient nous donner la vie. Mais en deuxième point, on va voir ensemble que Jésus vient nous la donner en abondance. Mais avant d'aller plus loin, on va juste prendre le temps de prier. Saint-Esprit, je te prie que tu viennes nous vivifier. Seigneur, la mort ne peut rien contre toi. Tu as vaincu la mort. On ne peut pas tuer Dieu. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Il est ressuscité. La mort ne pouvait rien contre toi. Et cette puissance, on en a besoin, Seigneur. On en a besoin dans notre vie quotidienne pour vivre selon ta volonté, pour être rempli de ta présence, pour être rempli du fruit de ton esprit. Alors, ma prière, c'est que chacun d'entre nous puisse repartir transformé par ta vie, par ton esprit ce matin. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. Jean 10, 7 à 11, lisons ceci ensemble. Jésus parle et il dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Le premier point ce matin, comme je vous ai dit, c'est que Jésus est venu dans le monde afin que les brebis aient la vie. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En passant, c'est nous les brebis. Okay? Un petit son de brebis, peut-être? Ben, ouais, c'est ça, on ne savait plus trop dans nos sons. Tu sais, c'est plutôt à 3 ou 4 ans qu'on apprend les sons d'animaux. Là, on n'est plus à jour, là. Bref. Donc, Jésus vient donner sa vie pour ses brebis et bien évidemment, ça fait mention de son sacrifice à la croix, bien entendu. Par sa mort à la croix, Jésus nous offre la vie éternelle si nous plaçons notre foi en lui. Alors que nous sommes morts spirituellement, si on n'est pas en relation avec Dieu parce qu'on a été créé pour ça, quand on est privé de notre relation avec Dieu, notre Créateur, Jésus nous donne sa vie par la croix. par la mort à la croix, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus, non, il est pas seulement la porte, il est pas seulement le bon berger, mais il dit aussi, comme je vous ai dit, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Jésus, il est le sens de la vie, il est la vie. C'est en lui qu'on trouve la vie. Il est la source de la vie. Il est celui auprès duquel nous devons aller quotidiennement pour nous ressourcer si nous voulons rester en vie. Regardez tous les endroits où Jésus dit qu'il est une nourriture, comme un pain de vie. Jean 10, 9 nous dit ceci, « C'est moi qui suis la porte. » C'est dans le passage qu'on vient de lire. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de quoi se nourrir. » Jean 6, 47, 51, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. » C'est du pain qui était envoyé, qui venait comme du ciel, du pain qui était envoyé pour le peuple d'Israël dans le désert. Donc, Dieu a pourvu pour ça, mais évidemment, ils sont décédés éventuellement parce que, voilà, chaque être humain meurt à un moment donné. Mais voici comment est le pain qui descend du ciel, le vrai pain qui descend du ciel, c'est Jésus. Celui qui en mange, lui, ne mourra pas. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. » Pour la vie du monde. Et moi, si j'avais entendu ça à l'époque, j'aurais dit « Ouf, Jésus, tu veux nous embarquer dans une secte cannibale? » Non, on va plutôt passer à autre chose. Imaginez à quel point ça devait être choquant. C'est pas pour rien que les gens étaient choqués par les paroles de Jésus. « Mangez mon corps, que dirais-tu de non? » Ils comprenaient pas. OK, c'est quand même assez troublant, choquant. Bien entendu, nous, on comprend que ça symbolise son corps à la croix et que quand on fait ce signe de la communion, qu'on mange le pain, ça symbolise le corps de Jésus et le sang de Jésus par le vin. Matthieu 4:4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et avant que ce soit Jésus cite, en fait, avant que ce soit des paroles de Jésus, c'était un passage dans le Deutéronome qui est en lien avec ce pain-là, justement, le pain de la manne. Regardez bien dans Deutéronome 8:3, c'est tout interrelié, ces versets-là. « Il t'a humilié en parlant du peuple d'Israël. » On est bien avant la venue de Jésus. « Il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne dans le désert. » que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. On n'est pas seulement matériel, physique, on est aussi spirituel, on a tout autant besoin de nourriture spirituelle, tout autant besoin de nourriture spirituelle que de nourriture physique. Et Jésus peut pourvoir l'un et l'autre. Amen. C'est difficile aussi de nos jours quand on ne connaît pas le manque. Hein? C'est pour ça que Dieu utilise le manque, le désert, pour permettre au peuple de se rendre compte qu'ils ont besoin, en fait, qu'ils sont morts spirituellement. Mais c'est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, parce qu'on ne ressent pas ce manque-là, et ça fait en sorte qu'on oublie qu'on a besoin, en fait, de Dieu, qu'on a besoin de dépendre de quelqu'un, pas seulement de notre argent. La nourriture est essentielle à notre vie. Jamais on pourrait penser se passer de nourriture pendant plusieurs jours. En tout cas, moi, ça me tente pas. Là. J'aime pas particulièrement jeûner. Je le fais par obéissance, mais non, j'aime jeûner pour certaines raisons, mais j'aime manger. Le problème, c'est que la nourriture de Jésus, elle est spirituelle, en fait. Elle n'est pas visible. Alors, on peut l'oublier. On peut l'oublier dans ce sens-là. On peut oublier qu'on en a besoin, en fait. Et moi, il y a plusieurs années, je ne buvais pas d'eau et je disais que je ne buvais pas d'eau. Je n'avais pas soif. Donc, j'avais pas soif et que je buvais pas d'eau. C'est pas compliqué. Même toute mon adolescence, je ne buvais presque pas d'eau. Vraiment, là, à peine. Puis, ça me semble, ça fait comme... Maintenant, on voit tout le monde avec des bouteilles d'eau. On se promène avec des bouteilles d'eau. C'était pas comme ça avant, là, en tout cas. Dans mon temps, comme ils disent. Mais je réalisais pas qu'en fait mon corps avait soif, parce que quand j'ai commencé à prendre l'habitude de me promener avec une bouteille d'eau, je me suis rendu compte que mon corps appelait la soif. J'avais soif, alors il appelait de l'eau, alors je buvais. Je me suis habituée à boire de l'eau, mais j'ai habitué mon corps à avoir soif parce que notre corps peut vraiment complètement l'oublier. Il peut oublier que en fait, t'as soif, mais tu t'en rends même plus compte tellement t'es desséché. C'est vraiment quelque chose qui est physique, mais ça peut s'appliquer à notre réalité spirituelle. Ne fais pas cette erreur-là avec Jésus. Prends le temps peut-être aujourd'hui d'évaluer ton régime spirituel. Est-ce que tu es en carence? Est-ce que tu es anorexique spirituellement? Prends-tu du temps quotidiennement pour penser à Jésus, pour prier, pour prendre du temps dans sa présence, écouter de la musique, t'attacher à la communauté, te laisser renouveler par lui, te laisser bercer dans son amour? La vraie vie se trouve dans la communion avec Jésus. Et c'est gratuit en plus, c'est ça qui est merveilleux, c'est gratuit en plus. Regardez ce passage magnifique dans Isaïe 55, 1 et 2. « Vous tous qui avez soif, il faut premièrement s'en rendre compte qu'on a soif. Venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Est-ce qu'il y en a qui le croient? Amen. Amen. Si tu vois que ton régime spirituel il est appauvri, bien, je veux t'inviter, mon ami, il n'est pas trop tard, pas du tout. Jésus t'accueille et tu peux commencer dès aujourd'hui à t'approcher de lui à tous les jours, quotidiennement, comme une nourriture, comme un pain de vie. Revenons maintenant à notre verset où Jésus qui dit qu'il est non seulement le bon berger, il est également la porte des brebis. Et pour mieux comprendre, j'ai mis en parallèle le fait que Jésus dit qu'il est la porte des brebis. Et aussi, encore une fois, ce verset qu'on va regarder plus en profondeur dans Jean 14, 6, qui dit « C'est moi qui suis le chemin », ou on pourrait dire la porte aussi, des brebis, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, comme la porte, comme le chemin, on pourrait dire. Et étudions un peu le contexte de ce passage-là, du passage de Jean 14, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie », parce que en l'étudiant, pour ce message, j'ai une nouvelle dimension que j'avais jamais vue et que je veux partager avec vous. Et c'est incroyable de voir à quel point la parole de Dieu, elle est vivante. Parce qu'après des dizaines de lectures, des dizaines d'années de lecture de la Bible, elle nous parle encore, Dieu nous parle encore par sa parole. Donc, lisons ce passage-là. Je veux qu'on regarde un peu au contexte dans Jean 13, à partir du verset 31. C'est Jésus qui parle avec ses disciples et c'est vers la fin de sa vie. Lisons-le. On va se mettre en contexte au fur et à mesure. Verset 31. Lorsque Judas fut sorti, mise en contexte, c'était après le dernier repas. Voilà. Donc, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme a été révélée et la gloire de Dieu a été révélée en lui. Si la gloire de Dieu a été révélée en lui, Dieu aussi révélera sa gloire en lui-même et il la révélera très bientôt. » Il est vraiment en train de parler des derniers événements de sa vie. « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous un peu de temps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » On parle de destination ici, on parle de chemin, OK? Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Jésus fait mention, par exemple, de la persécution auxquelles ils vont faire face. « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié trois fois. » Et ça, c'était la fin du chapitre 13, mais continuons dans le chapitre 14 qui est vraiment la suite. « Que votre cœur ne se trouble pas. » Il parle à ses disciples qu'il va quitter bientôt parce qu'il va être crucifié. « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ah ouais? Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Voyez-vous, cette discussion, quand on regarde un petit peu plus de façon large, on voit que vraiment, ils discutent de destination, de chemin pour se rendre quelque part. C'est un peu flou aussi. Nous, c'est facile de dire, ouais, les disciples sont pas bien, bien vite, mais nous, on a quand même la pleine révélation, entre guillemets, avec la parole de Dieu. Donc, c'est ça, ils savent pas tout, là, sur le coup. Jésus va auprès du Père, en fait. C'est ça la destination. Il dit qu'un jour, il va revenir les chercher à son retour, hein? Mais qu'en attendant, il nous prépare une place. Notre destination, c'est une place auprès de Dieu pour la vie éternelle. Mais Jésus ne dit pas qu'il est seulement la destination, il dit aussi qu'il est le chemin. Et théologiquement, c'est l'idée, évidemment, que Jésus, il est l'intermédiaire entre nous et le Père, que personne ne peut être sauvé que par sa foi en Christ. Le seul chemin vers Dieu, le seul chemin vers la vie, la seule porte vers le salut de ton âme, vers la vie éternelle, c'est Jésus. Mais ce qui m'a frappé quand je préparais ce message, c'est je crois qu'on peut dire aussi que en étant le chemin et non seulement la destination, Jésus nous montre que la vie qu'il a pour nous, elle est disponible pour chacun d'entre nous dès maintenant, dès aujourd'hui. Et tous les jours jusqu'à ce que nous arrivions à destination, il est aussi le chemin que nous parcourons à tous les jours. En d'autres mots, on doit, pour être plus concret, on doit apprendre à « enjoy the process », comme diraient les anglophones, à profiter du processus, à profiter du chemin, pas juste de la destination. Il y a une citation, une phrase, c'est comme inconnu, là, mais c'est une phrase qu'on peut entendre quand même souvent. « Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin parcouru. » On entend des fois ça, juste en passant, la destination compte quand même un peu, là. On ne va pas se le cacher. Pour nous, c'est une bonne nouvelle parce qu'on la connaît, la destination, et le message qu'on a écouté ensemble avec Pasteur Mark nous en parlait de cette destination magnifique, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, incroyable. Donc, on est vraiment béni aussi par la destination, mais on comprend avec cette citation-là, que nous devons et nous pouvons tout autant profiter du chemin que de la destination, du voyage que de la destination, parce que si ça te prend 60 ans de te rendre à destination, t'es mieux d'en profiter, OK? Si ça te prend 3 semaines pour te rendre jusqu'au bout du Canada, t'es mieux d'en profiter, parce que c'est pas mal plus ça le voyage que la destination. Et il y a différentes façons de réagir sur le chemin pour se rendre à destination. On voit Thomas, hein, qui est très pragmatique. Thomas, qui est le même disciple, évidemment, qui, après la résurrection, va dire, ben, je vais croire juste si je peux mettre mes doigts dans les blessures de Jésus. Et là, on voit que ça lui ressemble aussi. Il va dire au verset 5, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment peut-on savoir le chemin? C'est tout à fait logique, ma foi. Comment est-ce qu'on peut savoir comment se rendre si on ne sait même pas où ce qu'on va? Est-ce qu'il y en a qui aiment connaître les plans en détail avant de s'engager sur une voie? Levez la main. Oui. Hein? Explique-moi où on va, de quelle façon, avec le temps, l'horaire précis, tout ça, puis peut-être que je vais décider de te suivre. Mais peut-être des fois qu'on est comme ça, hein, on est un peu des genres de Thomas avec Dieu. Donne-moi une liste de choses à faire et à ne pas faire pour vivre ma vie chrétienne, puis ça va bien aller. Ou dis-moi, ça va être où, puis quand, là, toute cette affaire-là, puis qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans, puis quand je vais finir le secondaire, qu'est-ce que je vais faire, puis quand est-ce que je vais devoir changer de job, puis dis-moi tout ça, là, puis c'est bon, je vais peut-être te suivre, Jésus. Ou je vais peut-être te faire confiance. Ça marche souvent pas comme ça. Le chemin, c'est C'est une personne, c'est pas une liste. Le chemin, c'est une personne. La marche chrétienne, c'est une relation avec Jésus qui, par son esprit, va nous diriger vers les bonnes choses à faire tout au long du processus, un pas à la fois. Un pas à la fois. C'est pour ça qu'on dit, qui est dit dans la Bible, que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. C'est la marche par la foi. Saviez-vous que dans les années après la résurrection de Jésus, on appelait ceux et celles qui suivaient Jésus, les chrétiens, on les appelait une secte. C'était une secte juive. Juive à ce moment-là, c'était comme une secte juive. Et on appelait cette secte la voie. La voie, comme la voie... un chemin, là, la voie. On voit des références dans Actes des Apôtres. Et évidemment, ça peut faire référence à ça, à Jésus qui est sur le chemin et que les chrétiens, on est des brebis ou des suiveux. T'es un suiveux, OK? C'est ça. C'est positif aussi être suiveux quand on suit Jésus surtout. Mark Comer, c'est un pasteur, un théologien américain, il a écrit ceci et je veux vous le lire. La voie de Jésus n'est pas seulement une théologie, un ensemble d'idées auxquelles nous croyons. C'est ça, mais c'est plus. Et ce n'est pas seulement une éthique, une liste de choses à faire et à ne pas faire auxquelles nous obéissons ou désobéissons. C'est ça, mais c'est plus encore. Le chemin de Jésus, la voie de Jésus, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Un mode de vie où l'esprit te dirige pas à pas sur le chemin. Une relation qui t'amène à des décisions, qui t'amène à une transformation de qui tu es à l'image de Jésus-Christ. Et certains pourraient aussi essayer, donc peut-être que tu es cette personne-là qui veut essayer de tout savoir avant de partir, peut-être que tu es aussi cette personne qui veut aller le plus vite possible pour arriver à destination. Hein? Faire les choses le plus vite possible, puis pas vraiment profiter du processus. Surtout de nos jours où la rapidité est tellement, on veut toujours plus de rapidité, on cherche moins à profiter du processus, mais on veut les faire le plus rapidement possible. Certains peuvent aussi avoir tendance à envisager le salut seulement comme un billet pour une destination. Hein? Alors que Jésus ne nous offre pas seulement gratuitement le billet, mais il ne nous prépare pas seulement un endroit, une destination, le royaume éternel. Il nous accompagne tous les jours sur le long du chemin pour une vie abondante dans sa présence. Est-ce qu'il y en a qui, comme moi, essayent de faire surtout les tâches ménagères le plus vite possible pour s'en débarrasser? Levez la main dans la confession que nous faisons aujourd'hui. Ah, on essaye, mais j'essaie de ne plus faire ça, d'essayer de profiter du moment présent, même dans les choses qui semblent banales. Mais des fois, c'est comme, OK, on devient frénétique, finir ça le plus rapidement possible. Et souvent, moi, je suis pas très délicate dans la vie. Je brise des choses. Si je me mets dans ce mode-là, je brise des choses. J'ai brisé l'autre jour une coupe puis un autre bocal. Comme en une demi-heure dans ma frénésie, OK? Voyez-vous? Donc, j'ai pas avancé. J'ai vécu de la frustration. J'ai perdu des objets puis ça m'a pris plus de travail parce qu'il a fallu que je sorte le balai puis que j'en mange tout. Bref. Donc, si vous êtes comme moi, vous ne me laissez pas seule devant. Mais vraiment, on veut souvent aller le plus vite possible pour s'en débarrasser. Et des fois, un peu, on peut avoir cette impression-là dans notre vie. Dans notre vie chrétienne, je vais vous expliquer un peu comment ça peut se définir. L'autre exemple aussi, la vitesse à laquelle on roule. Moi, j'ai une perception des choses comme quoi ta responsabilité comme conducteur, c'est de nous amener le plus rapidement possible à destination dans les limites de la légalité. À plus ou moins 10 km/h. Hein? Je sais très bien que la plupart, 95% peut-être de nous, roulons 10 km/h, sûrement plus vite que la limite. Mais bref, imaginez cette idée-là de dire, regarde, amène-nous le plus vite possible, le plus rapidement possible, dans la mesure d'être dans la légalité, bien entendu. Mais on a cette tendance-là en tant que moderne. Il y a une nouvelle tendance de nos jours, je ne pense pas que c'est quelque chose de nouveau, c'est juste que nous, on n'est plus habitués à ça, mais ça s'appelle le « slow living », donc même il y a le « slow food », au lieu du fast food, hein, on va à la restauration rapide. Il y a le slow food, on prend le temps de cuisiner, de savourer, d'apprécier. Mais il y a le slow living, de prendre son temps pour faire les choses. Et je crois que nous sommes appelés en tant que modernes, chrétiens modernes dans notre vie qui va vraiment vite, à prendre plus notre temps, à développer notre capacité à être conscient de Jésus dans notre quotidien, parce que la vie, c'est une minute après l'autre. La vie, c'est une journée après l'autre, c'est un moment après l'autre dans un sens. C'est juste un ramassis de plusieurs jours, un après l'autre. Donc, aussi bien profiter du moment présent, aussi bien profiter de chaque minute, de chaque moment, pour être conscient de Jésus dans notre quotidien. C'est ça, le prier sans cesse aussi, que l'apôtre Paul nous appelle à faire. Pasteur Thomas, on a écouté aussi cette prédication-là, il disait que la vie chrétienne n'est pas un marathon, mais c'est une marche. Jésus disait à ses disciples de le suivre, et littéralement, c'était de se mettre en marche avec lui sur le chemin, dans son ministère. Ça fait tellement de sens quand on comprend que la marche avec Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. Une relation, ça prend du temps, ça se développe. C'est pour être vécu, une relation, c'est pas juste pour arriver à un aboutissement. Et la suite du passage dans Jean 14 fait le lien entre le chemin qu'on va suivre, hein, parce que c'est vraiment dans ce passage-là, la suite du passage qu'on a lu tout à l'heure, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voici ce qu'il va dire après Jésus, et on voit à quel point c'est lié à la communion relationnelle. Okay? La marche chrétienne, c'est entrer dans le lien d'amour du Père et du Fils, dans le lien de la Trinité. Lisons ensemble Jean 14, à partir du verset 11. « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je vais vers mon Père. » Donc là, il a dit la destination. « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste avec vous éternellement, l'Esprit de la vérité. » C'est Jésus qui marche à nos côtés à tous les jours. « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. » Okay? Jésus est en Dieu et nous sommes en Christ et Christ est en nous. Imaginez à quel point on est proche, il y a une relation de proximité avec la Trinité. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Voilà la marche chrétienne, c'est une communion avec Dieu. Ce dont notre âme a le plus besoin, c'est d'être rafraîchie par lui, c'est d'être vraiment en présence de Dieu. Le chemin vers le Père, c'est Jésus, c'est une personne. Et que la marche chrétienne aussi, c'est une relation avec cette personne. C'est profiter, en fait, de tout le long du chemin jusqu'à notre destination, profiter de Jésus pour apprendre à le connaître, pour apprendre à être transformé à son image jusqu'à notre destination finale. Mark Comer, encore une fois, il a dit ceci, lisons ensemble cette citation que je trouvais qui parlait bien de cette idée-là. « Jésus a commencé la formation de ses apprentis ou de ses disciples en les appelant simplement. Venez et suivez-moi. » On a un petit problème, je vais attendre un peu parce que là, je pense que personne ne m'écoute. Est-ce que tu peux... Oui, ça a l'air d'être la connexion. Je pense que c'est bon. C'est rétabli! On recommence. « Jésus a commencé la formation de ses apprentis ou de ses disciples, en les appelant simplement « Venez et suivez-moi », à simplement marcher à ses côtés sur le chemin. Il a invité André et son ami à simplement venir voir où il logeait. Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent avec lui ce jour-là. Dans Luc 10, 39, nous lisons l'histoire d'une apprentie nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur et écoutait ce qu'il disait. Écoutez bien, c'est le but premier et le plus important du disciple de Jésus, être avec lui. Passer chaque moment d'éveil conscient de sa présence et attentif à sa voix. Cultiver une relation avec Jésus comme base de toute notre vie. Amen. Jésus veut nous donner la vie. Jésus veut nous donner la vie. Mais pas seulement ça, pendant que les musiciens s'approchent, Jésus veut nous donner une vie d'abondance. Une vie d'abondance, pas juste une vie, je veux vous donner la vie. Et que mes brebis, il l'est en abondance, c'est notre deuxième point. Jésus offre la vie en abondance, en quantité, parce que en fait, il nous donne la vie éternelle. Donc, on s'entend que c'est assez abondant, c'est à l'infini, ma foi. Et aussi en qualité, par contre. Une vie en abondance, ça veut dire une vie qui n'est pas misérable pour nous, mais une vie de qualité. Une vie de qualité. Et comme j'ai dit au début de mon message, ça ne veut pas dire d'avoir des voitures de luxe. Sûrement pas. Jésus n'est pas seulement la porte, il n'est pas seulement le berger, mais il est le bon berger. Il ne nous donne pas seulement la vie, il nous la donne en abondance. La vie ici, la vie éternelle qui déborde jusque dans l'éternité. Et cette vie que Dieu nous promet, évidemment, c'est une vie qui est décrite, qui est sans larmes, sans deuil, sans mort, sans douleur, une vie dans sa présence, d'amour, de joie pour l'éternité. Mais cette vie, elle est disponible aussi pour nous, aujourd'hui, dès maintenant. C'est une fausse, comme j'ai dit tantôt, une fausse conception de penser que Jésus nous sauve pour un billet pour aller au ciel, que la vie qu'il nous offre est seulement la vie éternelle à venir. Mais Jésus nous offre aussi la vie ici-bas, une vie abondante selon les principes de son royaume. Et pour l'instant, on s'entend, ça ne va pas être une vie sans larmes, OK? Je vous confirme, je pense qu'on est capable de tout confirmer ici que ce ne sera pas une vie sans larmes, même si on est chrétien, une vie sans douleur, une vie sans deuil, parce que vous connaissez comme moi toutes les difficultés de la vie. Mais c'est une vie qui peut être vécue, ce sont des choses qui peuvent être vécues dans la paix, dans la joie, dans l'espérance, à travers les épreuves, à travers la douleur, à travers les défis. Jésus marche à nos côtés tout le long du chemin. Le chemin, il ne sera peut-être pas facile, mais Jésus est à nos côtés. Il est le bon berger. Il nous conduit. Il nous apporte du repos. Il nous apporte la vie en abondance. Il nous apporte une nourriture dont on a besoin pour pouvoir faire le prochain pas, pour pouvoir vivre la prochaine journée, quelle que soit notre situation, qu'elle soit bonne ou moins bonne. La vie que le bon berger veut pour toi, elle n'est pas médiocre. Elle est bonne, elle est belle, et des fois, ça peut vouloir dire des épreuves, oui, mais elle peut être bonne et belle malgré tout. Jésus est à nos côtés, il marche avec nous. Si tu crois que la vie d'un chrétien devrait se résumer à manger du pain sec, à prier ou à être en colère contre la société, à juste penser à ta date de conversion il y a 25 ans, sans vivre aujourd'hui une réalité vraiment auprès de Dieu, sans vivre des victoires aujourd'hui, bien, détrompe-toi en fait. C'est pas ça que Jésus veut, il veut plus pour nous. Jésus, il est le bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages vers la vie d'abondance. Jésus veut que tu profites de la vie, il s'est incarné, c'est pour ça que Jésus s'est incarné. La vie humaine est importante, l'expérience humaine est importante. Il mangeait, il buvait, il s'amusait, il était en communauté, il était avec 12 disciples, une gang de 13 gars ensemble. Il avait 30 ans, Jésus, là. Il était jeune. Là. Ça ne devait pas être sérieux tout le temps, OK? Être chrétien, ce n'est pas seulement combattre spirituellement, annoncer l'Évangile, lire sa Bible, c'est ça, mais être chrétien, c'est juste vivre, être un être humain, parce que Dieu a sauvé l'humanité, il a sauvé l'être humain. Il veut que nous soyons des êtres humains purifiés du péché. C'est profiter de la nature, de ta famille, de tes amis, bien manger, jouer, rire, quand tu le peux, évidemment. Être chrétien, c'est jouir de la vie que Dieu a pour toi, la vie en abondance. Vis aujourd'hui comme si tu étais déjà au ciel. Vis aujourd'hui comme si tu étais déjà au ciel. Dans la mesure du possible, bien évidemment, des fois, on est acclabé par la pauvreté. On ne peut pas en prendre un bon repas. Ça peut arriver. Mais dans la mesure du possible, on peut se réjouir même avec notre tranche de pain. Il est Jésus et la vie en abondance pour nous. Il est le pain de vie. Ce qu'il faut faire dans nos têtes, c'est regarder à l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu, on peut le voir avant la chute. C'était l'homme et la femme en parfaite harmonie, en parfaite harmonie entre eux, en parfaite harmonie avec leur Dieu, en parfaite communion, tous ensemble. Et ils se promenaient dans le jardin. Ils chillaient dans un jardin. C'était un tout inclus, version 1000 étoiles, OK? Vraiment, c'était ça. Le but, c'était de profiter des bienfaits du jardin. Toute la nourriture était accessible comme ils le voulaient. La terre n'était pas maudite, il n'y avait pas à travailler la terre, tout était accessible, il y avait les animaux, moi j'aime les animaux. Ça, c'était l'idéal de Dieu, c'est ce que Dieu avait pour nous en réserve. Et on voit aussi l'idéal de Dieu quand on pense à la promesse de la vie éternelle, une nouvelle terre parfaite, en harmonie, incroyable. Mais c'est ce qu'on peut avoir dans notre tête pour vivre chaque jour, essayer de vivre chaque jour par l'Esprit, selon les règles du royaume, les règles du royaume de justice, en aimant notre prochain, en aimant Dieu. On a juste ça comme liste de choses à faire, aimer notre prochain comme nous-mêmes, puis aimer Dieu. Dans cette perspective de vie abondante qu'on voit au début jusqu'à la fin de l'histoire de l'humanité. Et je veux conclure aussi en disant ceci. Comme on a vu dans le passage, le voleur, au verset 10, c'est pas à l'écran, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Ce message que je viens de lire, comme quoi Jésus veut nous... de vous partager, comme quoi Jésus veut nous apporter la vie en abondance... C'est totalement l'inverse, en fait, de ce que l'ennemi de notre âme veut faire. Satan veut détruire. Il cherche à voler. Voler ta pureté, voler ta liberté. On a l'impression que c'est la liberté, le péché, mais non, c'est nous mettre sous un esclavage parfois de dépendance. L'ennemi veut voler ta joie, il veut voler ta vie. Il veut te détruire jusqu'à ce que tu t'enlèves ta vie ou que tu te détruises. Il veut te voler tout le potentiel que Jésus a pour toi. Ça, c'est le message que même on entend dans notre société. Nous vivons au Québec des moments de désespoir. Ça brise mon cœur de voir qu'on a tellement de biens matériels, mais il semble y avoir un désespoir à l'intérieur de nous. Selon un article dans la presse qui est paru au mois d'octobre, le recours à l'aide médicale à mourir augmente au Québec de façon considérable. Il y a 5211 personnes qui l'ont reçu en 2022-2023 et c'est un bond de 42% en un an. Les statistiques nous montrent que le Québec représente un peu plus de 36% des 13 000 aides médicales à mourir qui ont été pratiquées au Québec, alors qu'on est seulement 22% de la population canadienne. Voyez-vous, il y a un mal-être dans les Québécois, j'ai l'impression. Il y a 1000 personnes qui se sont enlevées la vie au Québec en 2021, pardon. Il y a eu 6300 tentatives, 3600 hospitalisations liées à une tentative de mettre fin à ces jours. Et il y a aussi les jeunes femmes, ados et jeunes femmes qui commencent à montrer encore plus de signes de détresse. C'est ce groupe-là en ce moment qui montre beaucoup de signes de détresse, donc ça atteint vraiment tout le monde, autant les personnes qui sont plus en fin de vie que les jeunes qui ne trouvent pas d'espoir. En 2020, il y a eu 21 000 avortements au Québec. Voyez-vous, toutes ces choses-là, c'est la destruction de la vie, en fait. C'est la mort. C'est la mort. Et ça, Satan, il est content de tout ça. Nous sommes pro-vie, hein, parce que Jésus, il est la vie. Il est la vie. Dans ce contexte de mort, de désespoir, bien, je veux vraiment m'adresser à tous ceux et celles qui pourraient combattre avec ces pensées-là. Ces pensées de mort, des pensées de dépression peut-être, des pensées de désespoir, des pensées de destruction, d'auto-sabotage. Reçois ce matin la vie de Jésus dans ton esprit, dans ton cœur. Reçois la vie de Jésus. C'est l'ennemi qui veut te détruire à petit feu, qui veut te détruire, qui veut te voler ta paix, ta joie. Jésus a la vie en abondance pour toi. Il peut te libérer de ces pensées, de ce fardeau-là que tu peux porter en toi. Il peut te libérer de cette noirceur que tu peux porter en toi. Demande-lui. Demande-lui de te libérer de ça. Il va venir, il est le Dieu de la vie. Il est la vie. Il a la puissance de la résurrection en lui qui vit en nous. Nous sommes en Christ. Christ est en nous. Alors, il y a tout pour que tu puisses repartir d'ici vivifié complètement. Si vous voulez bien, on va juste se lever ensemble et j'aimerais prier pour chacun d'entre nous. Prions ensemble, prenons ce temps, puis après on va juste, on va élever notre Dieu. Seigneur Jésus, je veux te prier pour tous ceux et celles qui peut-être sont un peu à sec spirituellement, Seigneur, qui ont faim en fait, spirituellement. Peut-être qu'ils s'en rendent compte, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, Seigneur, mais je te prie pour que tu puisses vivifier tous les assoiffés, tous les affamés, Seigneur, ce matin. Par ton esprit, qu'on puisse être... avoir envie de passer du temps avec toi, Seigneur, avoir envie de te découvrir un peu plus, avoir envie de passer du temps dans ta présence, Seigneur, c'est ça, Seigneur, viens éveiller notre désir d'être avec toi, Seigneur, que tu puisses développer ta vie en nous, Seigneur, ta vie pour que on soit outillés pour marcher à tous les jours. Que tu puisses nous donner, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin à tous les jours, que des décisions peut-être puissent être prises ce matin, de vraiment se discipliner à venir quotidiennement à toi, Seigneur. Viens nourrir ce matin ton peuple, tes brebis. Viens nourrir tes brebis. Viens prendre soin, viens panser ceux qui sont blessés. Tu prends soin de tes brebis, tu es le bon berger, Seigneur. Alors, on se place devant toi comme des disciples qui te suivent, comme des petites brebis de ton troupeau. Et on te demande, Seigneur, viens prendre soin de nous. Viens prendre soin de nous. Viens nous nourrir, viens nous guérir. Chacun d'entre nous, on puisse venir à toi, Jésus, notre bon berger, qui nous regarde, comme le témoignage de Florian, qui nous regarde avec... tellement de bonté, tellement de compassion, aucune colère, rien de mauvais qui pourrait être transparent dans son regard, aucune culpabilité qui est mise sur personne. Seigneur, viens libérer de la culpabilité, s'il y en a qui ne se sentent pas capables de passer du temps avec toi. Seigneur, viens libérer, libère, Seigneur, par ton esprit. Seigneur, je ne sais pas chaque situation, je ne les connais pas. Seigneur, tu connais les cœurs parfaitement. Seigneur, je te prie de donner à chaque personne ce dont ils ont exactement besoin ce matin. On vient devant toi, Seigneur. Je veux t'amener aussi tous mes frères et mes sœurs qui pourraient combattre des pensées de désespoir, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, Seigneur, que si on a des personnes en tête, Seigneur, qu'on puisse commencer à intercéder pour ces personnes, Seigneur. On veut commencer à intercéder pour ce peuple québécois qui souffre. Seigneur, on te prie pour que tu amènes la vie, Seigneur, amène la vie dans ce lieu, que les gens qui rentrent dans ce lieu se sentent vivifiés, qui se sentent joyeux, qui se sentent aimés, touchés par ton amour, touchés par l'amour que nous avons les uns envers les autres, Seigneur. Vraiment, on te prie pour ta vie, la puissance de la résurrection, Seigneur, dans nos cœurs, dans le cœur de nos proches. Seigneur, viens restaurer. On te prie vraiment de briser les liens de la mort. Tu as déjà combattu la mort, tu as vaincu la mort, Seigneur. On veut s'emparer de cette vérité pour nos vies, pour nos pensées, pour nos cœurs, pour la vie de nos proches aussi, Seigneur. On te prie vraiment de libérer, libère les âmes, Seigneur, de ces emprises de destruction, de ces emprises de désespoir. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous élevons ton nom. Amen.